Vous écoutez, on lit pour vous.
Mon enfantôme, un texte de Sabrina Zeguiche, paru le 9 octobre 2022 dans la revue L'Esprit libre. Ce texte est extrait du 5e numéro du magazine de sociologie SIGI. Notice biographique. Sabrina est sociologue. Après l'expérience dont elle témoigne dans ce texte, elle a décidé de changer de sujet de recherche et d'explorer la question de la non-reconnaissance sociale du deuil périnatal. Fin avril 2010, je prends un bain. Les paroles de Céline Dion emplissent la pièce. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu, tout juste, le temps d'un rêve, d'un songe, et les toucher du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence, quand on ne savait pas. Le volume est presque au maximum, comme si, en occupant le plus d'espace possible, la musique pouvait faire rétrécir ma douleur. Une douleur sublimée, celle de Céline, contre une douleur crue, la mienne. Une douleur en rime contre une douleur sans mots. Une douleur sculptée, réfléchie, domptée contre une douleur brouillonne, bancale, indisciplinée. Mais dans le dialogue de ces deux douleurs, je trouve l'espace qu'il me faut pour vivre ce moment qui, je le pressens, marquera le début d'une nouvelle ère pour moi. Je pose mes mains sur mon ventre et je chuchote. Hang in there, little fella. En espérant qu'en lui demandant de coopérer, il pourra m'aider à conjurer le pronostic du médecin. Tu es encore avec moi. Je t'ai vu et entendu lors de la dernière échographie. Tu es là, quelque part. Je sens ta présence. Un spectre encore, sans doute. Le voyage est long avant que tu te joignes à nous, mais la promesse est là. Ne fais pas marche arrière. Ne retourne pas dans l'autre monde. Reste avec moi. Reste avec nous. Mes prières ne seront pas exaucées. Une semaine plus tard, le verdict du radiologue est sans appel. Et comme ça, la vie qui venait à peine d'éclore en moi s'est éteinte dans l'indifférence générale. L'issue était inéluctable, alors il n'y avait pas lieu d'essayer de l'infléchir. L'événement était courant, alors il n'y avait pas lieu de s'y appesantir. Je n'aurai pas de réponse à mes questions. Je ne saurai jamais pourquoi un tel drame est arrivé. Pourquoi faire? Me faisait-on sentir? Je ne saurai jamais si cela risquait d'arriver encore, si j'étais condamnée à vivre des déchirements à répétition. D'ailleurs, était-ce un drame aux yeux des autres? Était-ce un déchirement? Sa vie n'avait ému personne, sa mort non plus. Rien, il ne restait plus rien, pas même le souvenir de ce qui avait été pendant près de 12 semaines. Comme je le lirai plus tard sous la plume de Marie-Josée Soubieu, Le berceau vide, deuil périnatal et travail du psychanalyste, ce non-avènement s'est transformé en non-événement. Je suis rentrée chez moi, le ventre vide, le cœur en 1000 morceaux. Mes larmes n'ont pas réussi à métamorphoser cette douleur en souvenir, ni cette existence, aussi courte fut-elle, en fantôme dont j'honore la mémoire. Il ne suffit pas de pleurer ces morts pour leur octroyer le statut de fantôme. Encore faut-il qu'on vous autorise à les pleurer, qu'on les pleure avec vous, qu'on leur fasse une place dans le royaume des fantômes. Mais il n'était qu'un spectre. Il n'avait pas fait son entrée parmi nous, n'avait aucune existence sociale, et tout l'amour que je pouvais lui porter et toute la souffrance que je pouvais ressentir à son départ ne suffiraient jamais à lui tailler une place parmi les fantômes. En dehors de moi, il n'était rien. Ma douleur n'avait pas de nom. Ne sachant que faire de ce trou béant que personne ne semblait voir, j'ai ravalé mes larmes et décidé d'avancer de la seule façon qui m'était offerte, ne plus penser à ce drame et surtout ne pas en parler. Le souvenir de Little Fella et celui du drame se sont entremêlés au point de ne plus former qu'une seule entité indivisible. Sans exutoire possible, ma souffrance avait donné naissance à un monstre. Mes stratégies d'évitement se sont affûtées. Avec les années, j'ai appris à mieux anticiper les situations à risque, à détourner certaines conversations, à changer de chaîne à la moindre scène de femme enceinte. Mais mon monde se rétrécissait et donnait lieu à ce que David Fuenkinos appelle, dans numéro 2, une géographie abîmée des libertés. Plus je fuyais ce monstre, plus il prenait d'ampleur, et il ne manquait pas de se rappeler à mon souvenir à la moindre occasion. Sa morsure instillait alors un poison que je peinais ensuite à expurger. La morsure la plus douloureuse fut celle infligée à la naissance de mon fils. Je pensais naïvement que le souvenir du drame s'apaiserait une fois que la vie m'aurait gratifié d'un enfant. Il n'en fut rien. En prenant mon fils dans mes bras, en sentant sa peau, sa petite main qui se referme sur mon index, j'ai pris conscience de l'ampleur de la perte. C'est ce que Little Fella aurait dû être si la mort ne l'avait pas fauché prématurément. Je n'ai jamais autant pleuré son départ qu'à la naissance de mon fils. Ce n'était plus un spectre. C'était la promesse d'un enfant. Le monstre avait planté ses griffes dans mon cœur. Désormais, il me suivrait d'encore plus près. Cette danse funeste entre le monstre et moi allait durer 5 ans. Septembre 2015. Je travaille depuis plus d'un an au Centre d'études et de recherche en intervention familiale, CERIF, comme professionnel de recherche. En postulant, je savais que l'un des axes de recherche du centre était le deuil périnatal et que s'y tenaient des groupes de soutien au deuil périnatal. Je n'avais nullement l'intention de m'impliquer dans cette thématique. Personne ne savait ce que j'avais vécu, le tabou étant toujours de mise. Au bout d'un an, on me demande de contribuer à l'élaboration, ensuite à la coordination d'un projet de recherche sur le deuil périnatal en contexte migratoire. Le moment de la collecte de données approchant, la perspective d'être confrontée à mes anciens démons me terrorise. Pour me préparer à cette épreuve, je demande à assister au groupe de soutien au deuil périnatal en tant qu'observatrice. Ma requête est acceptée. Le jour J arrive. Je prends une grande respiration avant de sortir de chez moi pour me rendre au groupe de soutien. Les 20 minutes du trajet à pied me paraissent s'égrener à la fois trop vite et trop lentement. Mes jambes me portent difficilement. Mon souffle se raccourcit à mesure que j'avance. J'ai passé 5 ans à fuir le monstre. Aujourd'hui, je vais à sa rencontre. Cette démarche me paraît contre-intuitive. Pourtant, je sens au fond de moi qu'elle est nécessaire. Une fois devant la porte, je vois les deux animatrices du groupe, plusieurs couples et quelques femmes venues seules. Ces silhouettes me paraissent d'abord menaçantes. Leur malheur sera-t-il contagieux? Vont-elles m'aspirer avec elles dans le trou noir que je m'évertue à fuir? Je n'ose pas croiser leurs regards, de peur qu'elles me reconnaissent comme l'une des leurs, que mon secret honteux soit démasqué. Vais-je pouvoir retenir mes larmes? Les digues vont-elles céder? La séance commence. Les unes et les autres se présentent et expliquent plus ou moins longuement les circonstances qui les amènent au groupe de soutien. Les récits se succèdent, les larmes aussi. Tout le monde s'écoute religieusement. On distribue des mouchoirs, des regards pleins de compassion, des mots d'encouragement. Ils évoquent la colère, la tristesse, la culpabilité, la peur. Moi, j'écoute sans rien dire. Je suis à la fois désarçonnée et enivrée par cette parole décomplexée. J'essuie mes larmes discrètement, en espérant, si quelqu'un les aperçoit malgré tout, qu'il ou elle les attribue au récit poignant des autres et non à une expérience personnelle. À la fin de la séance, nous partageons ce avec quoi nous repartons. Mon tour arrive, et porté par une force insoupçonnable, j'évoque pour la première fois ma fausse couche. Je tremble en prononçant ces mots. Je brise le silence auquel les autres et moi-même m'ont condamné, et j'ai l'impression, en faisant cela, de braver le plus grand des interdits. L'inconfort de cette prise de risque est immense, mais si salutaire. Ces personnes me permettent, à travers leurs paroles, de me libérer des liens du monstre. C'est ainsi qu'au fil des séances du groupe de soutien, sans parler de moi, simplement en m'abreuvant des mots des autres, j'arrive à retisser le fil de mon histoire avec Little Fella, à le désencastrer du souvenir de la souffrance, à le soustraire de l'ombre que faisait planer sur lui le monstre. Dans cet espace de parole unique, je découvre un monde où nos fantômes sont reconnus, accueillis et honorés. J'apprends désormais à apprivoiser ma peur, ma douleur, et à laisser le fantôme de Little Fella prendre forme petit à petit. Je le porterai à présent en moi, je ne m'en détournerai plus. Nous sommes à jamais liés. Je lui dédie ces mots. Je les écris pour honorer sa mémoire, la mémoire d'un fantôme dont on m'a d'abord privé, que j'ai ensuite fui, mais que j'ai fini par retrouver. Mon enfantôme. C'était Mon enfantôme, un texte de Sabrina Zeguiche, paru le 9 octobre 2022 dans la revue Esprit libre.
Chinguac, un texte d'Émilie Monet, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Réflexion sur le pain blanc, symbole de paix, mais aussi de notre appétit pour la consommation. When the pine is gone, who then will speak of our legends? Albert Dumont, poète algonquin. Derrière chez moi, il y a un grand pain blanc. Je l'admire tous les jours depuis la fenêtre de ma cuisine, dans ma maison, dans la forêt. Il trône, somptueux au milieu des érables, des frênes et des bouleaux. À ce temps-ci de l'année, les arbres ont perdu leurs feuilles. Elles forment un tapis orangé à leurs pieds. Le pin blanc, lui, fait onduler le vert sur ses branches, contrastant ainsi avec la nudité de ses voisins. Surplombant les autres arbres, il n'a pas encore perdu ses feuilles. Ça le rend plus majestueux encore. Par-delà les fils électriques, on dirait qu'il fait l'amour au vent. En Anishinaabemowin, le pin blanc se nomme Chinguac. Le mot n'est ni masculin ni féminin, la grammaire des langues autochtones n'étant pas genrée. En français, par contre, le nom des arbres est généralement masculin. Pourtant, dans l'ancêtre du français, le latin, les arbres étaient accordés au féminin, puisqu'associés à la terre. Avant d'être « il », les arbres étaient « elle ». En fait, « chinguac » est plutôt « yel ». À ses branches, on trouve à la fois des cocottes mâles et femelles. Les cocottes mâles libèrent un pollen, comme une mousse dorée qui vient fertiliser les femelles. Puis, depuis la cime des arbres, ces dernières s'ouvrent, relâchent les graines de pin qui tourbillonnent vers le sol dans le cycle naturel de la vie. Chinguac est souverain. Un arbre suffit pour créer de nouvelles générations. Je voudrais faire une incision sur ta peau, coller ma langue et m'abreuver à ton corps. La sève est la première eau du printemps. C'est la nature qui perd ses eaux. Pour mes ancêtres, Chinguac est un symbole de sagesse et de longévité. C'est l'arbre de la mémoire, la grand-mère de la forêt. Les aigles élisent domicile sur ses branches pour couver leurs petits. Les ours font grimper leurs oursons à son tronc quand elles partent seules à la recherche de vivres pour leur famille. Les merles et les hirondelles fabriquent leur nid avec ses aiguilles. Les graines à son pied nourrissent les écureuils, les rats musqués et les oiseaux. Le sommet de ses branches nous ramène toujours vers le bon chemin lorsqu'on s'égare dans le bois. Chinguac est sage, bienveillant, nourricier. Ce sont les attributs des personnes à qui on accorde le statut d'aîné. Quand la nuit s'éclipse pour faire place au jour, quand la brume matinale encercle la forêt, c'est alors que les visages des ancêtres se révèlent, à même les troncs des arbres. Les feuilles du pin blanc sont des aiguilles qui viennent par bouquets de cinq. Cinq aiguilles comme les cinq doigts d'une main. C'est à cela qu'on reconnaît Chinguac. Ses aiguilles rassemblées en quintette sont longues et soyeuses au toucher. Mon amoureux, qui est Kanyen Kehaka, me parle souvent du pin blanc, Onentakayon, comme on le nomme dans la langue de son peuple. Chacune des aiguilles représente une des cinq nations fondatrices de la Confédération Haudenosaunee. Ensemble, elles représentent l'union. Elles rappellent le pacte de paix et d'alliance qui a été scellé entre les Kanyangeaga, les Seneca, les Oneida, les Cayuga et les Onondaga à l'époque où ces nations se faisaient encore la guerre. Leurs armes avaient alors été enterrées sous un pin blanc. Depuis, le pin blanc est l'arbre que le peuple de mon amoureux ainsi que tous les autres peuples iroquoiens associent à la paix. La cime de ses branches s'étend vers le ciel, à l'infini, et ses racines voyagent sous terre dans quatre directions, rappelant à chaque être le chemin à suivre pour embraser le feu de l'union et de la démocratie. Des nœuds sur l'écorce, comme des histoires cicatrisées, des récits millénaires, comme des racines fondatrices, des pins blancs réunis, telle une famille d'ancêtres, dans la forêt, leur présence est partout. Récemment, j'ai appris que le pin blanc avait été au cœur d'un conflit, l'émeute des pins blancs, opposant les représentants du roi d'Angleterre aux colons américains en 1772. Une loi de l'époque interdisait à la population de couper tout pin blanc de plus de 12 pouces de diamètre sur l'ensemble du territoire aujourd'hui appelé la Nouvelle-Angleterre. Les meilleurs arbres étaient réservés à la couronne britannique pour ses navires de guerre et sa flotte marchande. Les colons se sont révoltés et la révolte s'est transformée en rébellion. L'émeute des pins blancs est l'un des premiers actes de protestation contre les politiques britanniques, l'une des prémices de la Révolution américaine. C'est grâce aux pins blancs que l'Angleterre a gagné la guerre de 7 ans. Ses navires étaient plus forts que ceux de ses opposants, de sorte que l'Amérique du Nord est passée tout entière des mains des colonisateurs français à celles des colonisateurs anglais. L'arbre de la paix utilisé pour la guerre. Je grimace devant l'ironie de l'histoire. D'un côté, l'union et la révérence face aux vivants. De l'autre, l'appât du gain et la domination. Une fois encore, la flagrante opposition entre deux mondes de pensée. À une certaine époque, pas si lointaine, Chinguac était partout en Outaouais. Sur le flanc des collines, le long des lacs et des rivières. Ici, sur le territoire de mes ancêtres, et là où je suis né. Aujourd'hui, il ne reste pas beaucoup de survivants de cette forêt primaire. En 150 ans, on les a presque tous décimés. Vous écoutez Chinguac, un texte d'Émilie Monet, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet. C'est la présence des Chinguacag qui a amené les colons à s'installer dans la région. Pour eux, Chinguac est une matière première à exploiter. Son tronc est large, son bois de qualité supérieure, facile et souple à travailler. Son grain fin et sa texture uniforme. Une promesse de richesse pour plusieurs, ce qui explique l'exode des colons vers nos territoires jusque-là peu peuplés. Très vite, la forêt a été surexploitée et les réserves de bois de bonne qualité se sont épuisées. Le territoire de mes ancêtres s'est amenuisé et il leur a fallu aller de plus en plus loin à l'intérieur des terres pour chasser. Avec la disparition des arbres est venue celle des animaux, des médecines, des savoirs. Parallèlement, la loi sur les Indiens a été mise en place et mes ancêtres se sont retrouvés confinés dans des réserves, obligés d'abandonner leur mode de vie nomade en harmonie avec la forêt. Je voudrais remonter la rivière et retrouver les campements saisonniers, encore comme toujours, me mouvoir au rythme des saisons. Tout près de chez moi, à 15 minutes sur un sentier au cœur de la forêt, il y a un Chinguac très âgé. Il doit avoir 200 ans. J'aime bien aller lui rendre visite. J'aime m'asseoir à son pied, observer les jeux de lumière créés par ses branches. Au-dessus de ma tête, les aiguilles dansent et m'hypnotisent. Par terre, elles forment un tapis confortable à l'odeur suave. Mon dos contre le tronc de Chinguac, le temps devient autre. Une impression de me reconnecter à des savoirs immémoriaux. Chinguac est le gardien de la mémoire de la forêt et le vent pourrait me révéler certains de ses secrets. Les arbres sont des visages d'ancêtres dans la forêt. Je colle mon oreille là où je vois une bouche. Je voudrais réapprendre le langage des arbres, du temps où on savait dire merci. Jusqu'à tout récemment, les rivières de l'Outaouais étaient recouvertes de billots. Ces billots, on les appelle aussi pitounes. Je grimace à nouveau. Une fois l'arbre mort, il redevient féminin. Je me demande ce que mes ancêtres ont ressenti devant cette marée de corps morts de Chinguacac flottant sur l'eau. J'imagine leur horreur devant le massacre de la forêt, devant les barrages qui assèchent les rivières et font disparaître le champ des rapides, face à l'odeur âcre des usines à papier, face au silence des oiseaux. L'horreur face à la mémoire assassinée de la forêt. Dans la descente de la rivière, des pitounes, tués, face retournée dans l'eau. Aujourd'hui, le pin blanc représente 45% de la production mondiale de bois de construction. Il est transformé en plancher, en moulure, en cadre de porte, en meubles IKEA de toutes sortes. La chaise sur laquelle je m'assois pour écrire est faite des mêmes cellules que le tronc contre lequel je m'adosse avec autant de révérence quand je vais me promener en forêt. L'industrialisation de Chinguac rend cette relation facile à oublier. Je voudrais entendre la terre gronder, face à un pacte de réciprocité bafoué entre nous et les arbres. Derrière chez moi, à côté du grand pin blanc, trois petits Chinguacac poussent. Leurs branches sont accessibles à ma taille humaine. Je peux encercler leur tronc tout entier avec mes bras. Mes doigts sur l'écorce de l'un d'eux, je lui murmure des paroles de remerciement en effritant un peu de tabac. Puis je cueille quelques bouquets d'aiguilles. Elles me serviront à faire une infusion, un boost de vitamine C idéal à ce temps-ci de l'année. Sans cette médecine, les premiers colons en provenance de la France n'auraient pas survécu. En partageant avec eux les enseignements de Chinguac, les peuples millénaires leur ont offert la plus grande marque d'amitié. Ne jamais oublier, les arbres étaient là bien avant les humains. Les arbres vivent bien plus longtemps que les humains. Aujourd'hui, le pin blanc a presque disparu des forêts en Amérique du Nord. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'il reste moins de 5 % de la superficie des forêts de pin blanc d'avant les débuts de la colonisation. En plus de la coupe à blanc, une nouvelle maladie est apparue vers le début du 20e siècle, celle de la rouille vésiculeuse, introduite depuis l'Europe et l'Asie. Ce champignon exotique n'était pas présent dans les écosystèmes anciens. Il est venu coloniser la forêt. Shinguac en est grandement affecté. La mise à feu contrôlée que les peuples premiers pratiquaient jadis a été interrompue. Pourtant, Shinguac a besoin du feu pour se régénérer. Le feu expose le sol, réduit l'ombre et élimine les plantes qui compétitionnent avec lui pour avoir accès à l'eau, à la lumière et aux nutriments. Sa chaleur fait fondre la résine sur les cocottes femelles, ce qui leur permet de s'ouvrir plus rapidement. Les graines tombées trouvent alors un sol fertilisé et libre d'espèces envahissantes. Shinguac offre une éloquente leçon des conséquences souvent irréversibles que peut avoir la pensée anthropocentrique sur la nature. Shinguac, l'arbre le plus fort et le plus ancien en ces terres, nous montrait le chemin vers des relations basées sur le respect, la gratitude et la réciprocité. On a fait la sourde oreille et on l'a plutôt considéré comme une richesse inépuisable. Sa survie est maintenant menacée. Il sera impossible de recréer la majesté des forêts d'antan. La mémoire millénaire de notre territoire est amputée. Mais en prenant le temps de nous arrimer à Shinguac, de l'écouter avec tous nos sens, on arrivera peut-être à réentendre. La sagesse des arbres est une clé pour préserver ce qu'il reste de la vie. Tout l'hiver, le feu fera l'amour à Shinguac dans le poêle. Au printemps, j'aurai une chaudière pleine de cendres. Il n'y a pas de plus puissant engrais pour faire repousser la vie. Émilie Monet est une artiste pluridisciplinaire, comédienne, dramaturge et metteuse en scène d'origine anishinabé et française. Sa pièce, Okinum, a été présentée à Espace Go l'automne dernier. C'était Shinguac, un texte d'Émilie Monet, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau Projet.